Seigneur, merci pour toi. Merci pour qui tu es dans nos vies. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour. On a besoin de toi ce matin, Seigneur. On a besoin d'être rempli de ton esprit. On a besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Comme disaient les disciples, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de vie, de la vie éternelle. On a besoin de toi, on a besoin d'entendre de toi, on a besoin que tu nous parles à chacun. Et Seigneur, ce matin, on te demande de nous parler par ce passage, par ce texte, par les paroles du prophète Osée, Seigneur. Ouvre nos cœurs et aide-nous à entendre ce que tu as à nous dire. Merci pour ce temps, Seigneur. Nous te le remettons. En ton nom, nous prions. Amen. Tournons-nous donc dans Osée 13. Et on va lire ensemble les passages que nous allons regarder ce matin. Donc à partir du verset 1 du chapitre 13. « Lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. » On dit à leur sujet, ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent hors de l'air de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais « Donne-moi un roi et des princes ». Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra. Le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront. Ils auront la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous mon ombre. Ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Je lui répondrai, je veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Qui est sage, qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Amen. C'est des passages, quand on les lit, qui sont lourds, qui ne sont pas pleins de forcément d'images faciles à entendre. Alors, on finit aujourd'hui l'étude dans le livre d'Osée, mais je voulais un petit peu revenir sur le contexte, peut-être nous rappeler certaines choses. Je ne sais pas si vous êtes bien à l'aise avec cette étude, si vous vous sentez bien en maîtrise, entre guillemets, de ce qui se passe et de où on se situe. Quand c'est la dernière fois que vous avez étudié le livre d'Osée, par exemple? À l'église, je ne sais pas si on l'a déjà fait depuis que Pierre est pasteur dans cette église. Je n'ai pas souvenir, mais peut-être. Mais en tout cas, c'est simplement pour dire que cette étude du livre d'Osée, c'est peut-être pas demain la veille que vous allez retomber dedans au niveau de l'église, par vous-même peut-être, dans vos lectures personnelles, mais c'est des livres sur lesquels on s'attarde pas forcément toujours. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui essaient de lire la Bible en un an ou qui ont des programmes de lecture. On passe dans le livre d'Osée, on passe dessus, et depuis qu'on fait cette étude, depuis que Pierre enseigne dans le livre d'Osée, je m'aperçois, comme je m'aperçois souvent quand on étudie des passages qu'on connaît moins, que quand je lis, parce que j'ai lu Osée dans le passé, j'ai déjà lu la Bible, et avec ses plans de lecture, mais on s'aperçoit que le livre d'Osée, par exemple, ben ça n'a pas collé au niveau de mon intelligence. Il n'en est pas resté grand-chose, et quand... il y a des versets pendant l'étude là que je remarque, je me dis, pourtant j'avais lu le livre, mais j'en avais rien retenu. Et pour moi, je me dis que que parfois je dois faire plus attention. Je me suis lancé le défi avec cette étude. Moi, j'ai grandi dans cette église, mon père enseigne ici. Moi, ça fait peut-être 1000 fois que j'enseigne Pierre enseigner. Il y a les mêmes anecdotes, les mêmes manières de parler, les mêmes choses qui reviennent. Je tombe souvent dans le. Je sais pas comment le dire, mais souvent j'ai du mal à écouter mon père avec un cœur ouvert et attentif et un cœur qui me dit. Qu'est-ce qui vient de la part de Dieu pour moi? Et par rapport à cette étude d'Osée, je me suis dit, je vais essayer, pendant que Pierre enseigne, de prendre des notes et de marquer au moins une chose ou un verset à retenir chaque dimanche sur cette étude. Parce que quand on vient ensemble, en tant qu'église, Dieu veut nous parler. Et c'est pas parce que c'est Pierre et qu'on peut, ah, c'est Pierre, bon, ben, il va redire les mêmes choses, etc., etc. Dieu veut nous parler en tant qu'Église à quelque chose pour nous, pour notre corps, pour notre famille ici. Il veut faire quelque chose ici parmi nous. Et quand on est dans une étude comme ça, il veut nous parler. Et je me parle à moi-même. On doit faire attention et être attentif et arriver le dimanche matin en se disant qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin. Et parfois c'est difficile, on est d'accord, ça on est humain, on dort pas bien, on reste debout trop tard, on on connaît tous ces problèmes, mais on peut le matin, le dimanche matin, se lever et arriver ici et se dire, ok, je vais faire attention, je vais essayer d'être à l'écoute, que ce soit Pierre, que ce soit un autre, que ce soit quelqu'un qui m'amuse, que ce soit quelqu'un qui parle bien avec des paroles jolies, que ce soit quelqu'un qui parle avec une voix monotone et qui m'endort, c'est à moi de faire le travail. Je faisais l'étude de la Bible en 24 heures et on a regardé les épîtres de Paul et j'ai été frappé parce que Paul a dû défendre sa réputation par rapport aux Corinthiens et dire, il y en a parmi vous qui disent que quand je suis présent, je suis pas impressionnant, je parle avec des mots simples. Vous vous rendez compte? L'église à Corinthe disait que Paul, l'apôtre, était ennuyant à écouter. C'est quand même pour dire l'état du cœur humain. L'église des premiers siècles est la même que nous. On est humain, on a des gens qui sont peut-être pas ennuyants, mais je me suis dit à moi-même, si Paul venait et enseignait ici ce dimanche, est-ce que moi, je serais pas là à me dire, oh là là, ce gars, il parle trop longtemps, il parle pas assez fort, il est ennuyeux, etc. C'est la barbe. Alors que c'est Paul l'apôtre. Et pour moi, ça m'a repris et je me suis dit, c'est le genre d'attitude que moi, je peux avoir par rapport à Pierre, de me dire, j'ai déjà entendu cette blague, je l'ai déjà entendu celle-là. Et par rapport à Osée, je me suis dit, mais je sais pas, la prochaine fois que je vais vraiment prendre le temps de faire une étude poussée dans Osée, et ça vaut le coup pour moi d'écouter et de faire attention. Ça fait partie de la Bible, ça fait partie du message que Dieu veut me communiquer. Quand je dis que je suis chrétien et que je crois en la Bible, ça veut dire que je dis que je crois aussi à ce qui est marqué dans Osée. Et est-ce que je sais ce qui a marqué dans Osée ? Et donc ça m'a repris et le fait de devoir l'enseigner, je voulais vous partager ces idées-là. D'après ce que j'ai compris, on va continuer l'étude des petits prophètes après Osée. J'en suis pas sûr, c'est Pierre qui prend ces décisions-là. Mais j'ai compris qu'on allait faire l'étude dans les petits prophètes. Et les petits prophètes, c'est comme Osée, c'est des livres sur lesquels on tombe pas tous les jours. Et donc je vous encourage et je m'encourage à prendre le temps de faire attention et peut-être de les lire. Peut-être lisez une fois Osée, maintenant qu'on a fait l'étude, lisez-la d'un trait, ça prend... Osée, c'est un des plus gros et ça prend peut-être 20 minutes, quoi, 30 minutes. C'est des choses simples et c'est des choses qui pourtant m'échappent si souvent. Et Paul, on peut lire dans 1 Corinthiens 10, en parlant à propos des Israélites, Paul l'ennuyant, il disait « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ces choses dans Osée ont été écrites pour notre instruction, pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes péchés, dans les mêmes choses. Et pour qu'on puisse être instruit et pour qu'on puisse éviter de tomber dans ces mêmes péchés, il faut qu'on prenne le temps de considérer quelles sont ces choses. Il faut qu'on considère ces exemples, qu'on y réfléchisse, qu'on médite et qu'on les laisse changer nos cœurs, nos comportements. Et il y a plein de choses à noter. Alors le livre d'Osée, on apprend au début que c'est le fils de Béri, que c'était un prophète dans le royaume du Nord, Israël. Son nom veut dire salut. C'est la même racine que Josué ou Jésus. On a regardé avec l'étude de la Bible en 24 heures la question de la division du royaume. Est-ce que vous êtes bien à l'aise par rapport à ça? Le royaume, il s'est retrouvé divisé. Il y a eu David, et il y a eu son fils Salomon, et le fils de Salomon, Roboam, a voulu faire mettre des grandes charges au niveau des impôts et traiter le peuple durement. Et un certain Jéroboam s'est révolté avec 10 tribus du Nord et a causé une division du peuple. Et donc le peuple s'est retrouvé à partir de peut-être 930, divisé en deux royaumes. Si vous voulez des idées, il y a David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, et là à 930, donc c'est 70 ans après David, le royaume s'est retrouvé divisé. C'est fou de voir que dans notre esprit, on se dit bon, il y avait David, mais c'est vraiment proche. Après, il y avait Salomon et pas très longtemps après, le royaume s'est trouvé divisé avec des rois mauvais. Quand vous lisez les listes, et on va en regarder quelques-uns brièvement, mais le peuple s'est retrouvé divisé et il y avait donc au nord le royaume du Nord, Israël, qui était composé de 10 tribus, et dans Osée, il parle de ce royaume du Nord, il lui donne le nom Éphraïm, qui était une des tribus, mais qui était une des tribus les plus dominantes, qui avait le plus d'influence, et notamment ce Jéroboam qui a causé la division venait de cette tribu. Donc dans Osée, Éphraïm égale Israël égale le royaume du Nord. Et il y avait le royaume du Sud, Juda, au Sud. Et ces deux royaumes vont avoir des destins un petit peu différents. Le royaume du Nord va être défait, conquis par les Assyriens, qui vont les amener en captivité en 725. On peut dire, si vous voulez, 750 à peu près. C'est le quart de 1000 ans. David, c'était 1000 ans, et un quart de 1000 ans après, c'est le royaume du Nord qui est emmené. Et le royaume du Sud, lui, va durer plus longtemps, mais finalement va tomber face à Babylone et va être emmené à Babylone, va être déporté, mais peut-être presque 150 ans plus tard. Donc ils ont eu une période beaucoup plus longue. Et le royaume du Nord, en fait, c'est le royaume qui va être défait le premier. Ils ont été beaucoup plus infidèles, ils n'ont pas eu un seul roi qui était digne d'être appelé bon, ils n'ont eu que des rois mauvais. Et c'est eux qui vont donner, et c'est cette déportation avec les Assyriens qui vont donner ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui sont appelés les Samaritains. Et c'est un peu un mélange de ces tribus qui sont revenues et des peuplades que les Assyriens ont remis. Les Assyriens, ils déportaient un peuple et ils en mettaient d'autres à la place. Ils faisaient des espèces de mélanges pour que personne soit chez lui et qu'ils aient un peu comme ça le contrôle de tous les royaumes qu'ils avaient conquis. Et on voit dans le livre d'Osée la situation mauvaise de ces royaumes du Nord, et on voit le jugement qui va arriver, et Dieu les prévient avec plusieurs prophètes que s'ils ne changent pas leur comportement, ils vont en subir les conséquences. Et Osée, lui, commence son ministère sous un certain Jéroboam II. Il y avait le premier qui a causé la division. Ici, c'est un deuxième Jéroboam. Et lui va amener une période de prospérité et de stabilité au pays qui fait que il se détourne encore plus et il laisse encore plus Dieu de côté. On va le voir brièvement dans le texte, mais c'est un standard de la nature humaine par rapport à Dieu. Quand les choses vont bien, on a tendance à laisser Dieu de côté. Quand ça va mal, tout d'un coup, on est pris d'une envie de prier. C'est la nature humaine et c'est notre cœur. C'est comme ça que nous sommes faits et sous ce roi, donc le pays va profiter d'une longue période de paix, de stabilité, de prospérité, mais ils ne vont pas en faire bon usage et leur comportement sous ce roi et sous cette période va amener ensuite un déclin et après lui il va avoir une période vraiment d'instabilité avec plein de rois qui vont, la plupart vont être assassinés avec des coups d'État et puis ça finit avec la Syrie qui les écrase et la fin du royaume. Si vous voulez aller regarder l'histoire, c'est dans 2 rois 14 à 20, si vous voulez lire, ça explique ces histoires-là, ça explique la Samarie, les Samaritains. Samarie, c'est la capitale du royaume du Nord. Et on le voit dans le texte qu'on a lu, ce nom est cité. Mais toutes ces choses, ces noms sont équivalentes en gros au royaume du Nord. Et ça, c'est le contexte. Et ça donne lieu à ces paroles et ces choses qui sont difficiles à entendre. Alors, ce mélange de choses fait que c'est parfois difficile de lire Osée et d'en tirer quelque chose. On voit Éphraïm, Samarie, Assyrie, Syrie, et on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et puis en plus derrière, il parle de choses qui sont pas très gaies et qu'on se dit bon ben, on va passer. Et on n'en retient rien. Donc je voulais juste donner ça. Je sais que Pierre a déjà introduit le livre, a déjà parlé de ces choses. Je voulais nous remettre dans le contexte encore une fois. La répétition nous aide à apprendre et à comprendre. Alors dans Osée 13, lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent hors de l'aire de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Pierre donc vous a parlé du fait qu'ils adoraient Baal, ils adoraient les dieux des peuples autour, les dieux des nations qui n'étaient pas Israël, qui avaient d'autres dieux et ils ont fait un peu un mélange, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Ce roi Jéroboam, le premier, il avait eu peur quand il avait mené sa rébellion et il s'était dit... Jérusalem, c'est dans le royaume du sud. Si les gens du nord vont louer Dieu à Jérusalem, ils vont finir par retourner et ça va profiter au royaume du sud. Donc pour bien assurer la division et pour essayer d'assurer mon autorité sur ce royaume du nord, on va se faire notre propre petit culte, entre guillemets. Et il avait pris des prêtres. Il s'était fait des veaux d'or à deux lieux, dans Bethel et à Dan, qui étaient deux villes. Et ils avaient commencé à faire un peu un culte qui était un peu une imitation. Et puis petit à petit, ils avaient introduit d'autres dieux. Et donc, ils louaient un petit peu Dieu, ils louaient un petit peu d'autres dieux, ils louaient un petit peu à leur sauce, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Et c'est de ces choses dont il s'agit ici. Ils ont adoré Baal. Ils se font, avec leur argent, des idoles en métal fondu. On voit au verset 2, il parle de l'hommage à des veaux, et c'était ces veaux d'or qu'il s'était fait. C'est frappant d'entendre ces choses et de remettre dans le contexte d'Israël. Quand on se souvient les épisodes dans le désert, qui s'était passé quand ils s'étaient fait un veau d'or, et de se dire qu'ils étaient repartis dans le même truc, qu'ils avaient les livres là, ils avaient l'histoire marquée dans des livres, et pourtant ils recommencent à refaire les mêmes choses. Et ça va causer leur mort, ça va causer leur destruction. Ils vont être comme la nuée du matin qui s'évapore, comme une rosée qui se dissipe très vite, comme des brins de paille emportés par le vent. La fumée qui sort d'une fenêtre, c'est des choses qui ne durent pas et dont on n'a plus de souvenirs une fois qu'elles sont parties. Et Pierre en a parlé aussi, cette idée d'idolâtrie, cette idée de Dieu qu'on se fait. Et je réappuie là-dessus parce que le texte réappuie là-dessus et que Dieu, dans la Bible, reparle de ça tellement de fois. Mais quand on se crée une idole, quand on fait quelque chose et qu'on l'adore, c'est jamais une très très bonne idée. On se dit que louer un animal, est-ce que vous allez vous agenouiller devant une vache? Alors, il y a peut-être certaines cultures polythéistes ou animistes qui le font, mais on n'a pas l'impression d'avoir affaire à quelque chose de très très glorieux. Si vous allez, dans la rue et vous vous mettez devant, vous croisez un chien et vous vous agenouillez devant et vous commencez à faire vos prières, on va se dire c'est ridicule. Et là, c'est encore pire. C'est si je croise un chien dans la rue, je prends un bout de bois et avec mon canif, je taille une pâle copie et ensuite je mets le bout de bois sur ma table dans ma chambre et je m'agenouille devant. C'est encore plus honteux. Et alors c'est facile quand on le dit comme ça. La réalité est que nous avons d'autres idoles. Nous avons des idoles que nous sommes faits ou que l'homme a fait et que nous prenons comme idoles que nous pouvons adorer. Et on va être honteux devant Dieu si on ne se repent pas de ces choses-là. On sera peut-être pas ridicule ici, mais on le sera un jour. Et ici, il parle du fait qu'ils font des sacrifices. Et Pierre en a parlé, cette idée qu'il faisait des sacrifices humains, le plus souvent d'enfants, et que il les faisait à ses idoles. Et là, c'est encore un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on prend, donc on a vu le chien dans la rue, on en a fait une petite copie en bois, et puis on va sacrifier des enfants à cette chose qui n'est qu'un bout de bois. Et le pire, c'est que là, non seulement on ne rend pas gloire à Dieu, on ne rend pas gloire à celui qui nous a créés, mais en plus on prend des choses qui ont l'image de Dieu en elles, qui ont été créées à l'image de Dieu des hommes, et ici les offrait en sacrifice. Et nous, on est dans une société où on a peut-être avancé à certains égards. On a une certaine civilité, une certaine éducation. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas, mais peut-être comme les Israélites au temps de Jésus. Vous vous souvenez que Jésus, quand il enseigne son sermon sur la montagne, il reprend les lois qu'ils s'étaient faites, les lois qu'ils avaient érigées en un petit peu leur... il disait, c'est bon, on respecte ça et donc ça va. Et Jésus avait dit, mais vous le faites, mais vous le faites juste dans l'esprit. Peut-être vous ne commettez pas le meurtre, mais vous aimeriez bien. Vous avez juste un peu trop d'éducation pour le faire. Vous savez, votre société est organisée de telle manière que vous ne le faites pas concrètement, mais par contre, vous le pensez en fait. Vous ne commettez pas de l'adultère, mais vous le pensez. Et Jésus disait, c'est la même chose. Et par rapport à ces Israélites, quand on lit ces histoires, ces idoles, c'est la même chose pour nous. On se dit, ah ouais, mais ça c'est ridicule, sacrifier des enfants. Mais peut-être qu'on le fait, mais d'une manière qui est cachée, qui est dans l'esprit, qui est dans le cœur. Peut-être que aussi la manière dont notre société est organisée, on s'est donné des structures qui nous permettent de nous déresponsabiliser, de dire non, c'est pas moi, c'est le gouvernement. Non, c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre. Et pourtant, on est là et on fait partie de cette société et on fait partie des choses qui se passent. Il importe à chacun de nous de peser ces choses et de peser le pour et le contre. Est-ce que j'en sais rien et c'est des choses pour lesquelles, pour moi, je sais que c'est difficile. Un exemple, est-ce que j'achète des produits pour lesquels je sais qu'il y a des enfants qui meurent dans des pays pour les fabriquer? Finalement, c'est un peu des sacrifices d'enfants pour mon idole de confort et de luxe et de facilité. J'en sais rien. Je vois une idée qui me vient parce que en ce moment, notamment aux États-Unis, il y a des gros débats par rapport à l'éducation des enfants et notamment des histoires avec les sexes, les genres, et ça a été une question ici aussi en France. Mais est-ce que peut-être que d'une certaine manière, nos sociétés ne sacrifient pas les enfants en les confiant à l'éducation parce que c'est plus facile? Parce que c'est difficile d'éduquer un enfant, d'élever un enfant. Peut-être que c'est plus facile pour les parents d'amener les gosses à l'école et de dire voilà, je suis tranquille et j'apprends beaucoup de choses en ayant une fille moi-même. D'avoir Daphné, ça me fait réfléchir à beaucoup de choses auxquelles j'aurais jamais réfléchi. Et c'est sûr qu'élever des enfants, les éduquer, leur apprendre les choses de Dieu, c'est pas des choses qui sont simples, pas des choses qui sont faciles. Ce sont des choses qui me coûtent. Tout ça pour dire que quand on lit ces textes et quand on voit ces choses, ne balayez pas d'un revers de la main en disant oui, les idoles, des sacrifices d'enfants, c'est pas nous, ça ne me concerne pas. Apprenez à lire et à voir la signification qui est pour nous, qui est pour vous, qui est pour moi. Dieu donc leur promet et leur dit, par rapport à ces choses, vous allez pas durer. Verset 4, « Moi je suis l'Éternel ton Dieu depuis l'Égypte, tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. » Dieu dit, « Éphraïm a changé, mais moi j'ai pas changé, moi je suis toujours le même. » Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. dans les chapitres précédents, il avait dit qu'il était le, il était comme un papa qui avait appris à marcher, qui avait tout donné à son enfant, et ensuite l'enfant s'était rebellé. Et ici, c'est un petit peu la même idée. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui les a nourris, c'est lui qui leur a tout donné, ce qu'ils ont, toute la richesse qu'ils ont, tout ce qu'ils ont. Et une fois qu'ils ont suffisamment et qu'ils se sentent bon, c'est bon, maintenant ça va, j'ai ce qu'il me faut. Merci, au revoir. Et dans tout Osée, cette idée revient, cette idée que c'est un petit peu comme le fils prodigue. Et Dieu, dans les choses qu'il dit, je vais en parler un petit peu plus tard, peut-être on va le laisser, mais il a ce cœur de les sauver. Et ils sont dans l'étape où le fils prodigue prend l'héritage et s'en va, il va faire la fête. Et il se dit c'est bon. Et Dieu, toutes ces choses dures, toutes ces choses sévères qui vont arriver à Israël, c'est pas pour par colère, c'est pas pour se venger, c'est tout d'abord, c'est la conséquence de leur choix, c'est la conséquence de leur action, mais c'est aussi pour les ramener à lui. C'est ce cœur qui transparaît. Si vous voulez regarder au chapitre 11 qu'on a regardé la semaine dernière, à partir du verset 7, Dieu dit « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm ? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël ? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm ? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne reviendrai pas avec colère. » C'est comme s'il luttait. Il est là. Oh, mais il les aime quand même et il n'a pas envie que cette colère les détruise. Je vous disais que c'était un petit peu une réalité de la nature humaine. On est tellement, si vous lisez la Bible, si vous pensez à vos vies, on a toujours cette habitude de prier quand ça va mal, mais quand ça va bien, on n'y est pas. Et on le voit là, au verset 6, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Verset 7, « Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ourse à qui l'on a enlevé ses petits et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes sauvages les mettront en pièces. Il va les détruire. » C'est intéressant de noter que les animaux qui sont mentionnés ici, les animaux qui vont... auxquels ils se comparent pour causer cette destruction, c'est le lion, la panthère, ou dans certaines traductions, le léopard, l'ours, et il est question de bêtes sauvages. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Daniel 7, si ça vous intéresse, il y a une prophétie dans Daniel 7, dont on a parlé dans l'étude de la Bible en 24 heures, où il est question d'empires successifs. Et dans cette prophétie, il est question de quatre empires qui sont un lion, un ours, un léopard et une bête sauvage. Les empires a priori en question sont Babylone, l'empire perse, l'empire grec et l'empire romain. C'est intéressant de noter que c'est des images. En tout cas, si c'est pas les mêmes, c'est très semblable. Verset 9. « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Ça, c'est tragique. On a vu dans le chapitre 11, Pierre en a parlé du fait que Dieu disait qu'il les a tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Il était plein d'amour, plein de bonté envers eux, et eux, ils étaient contre lui. Et c'est toujours tragique d'être contre celui qui est le seul à même de nous sauver. Encore une fois, l'image peut-être d'un père avec ses enfants, c'est peut-être un enfant qui tombe dans des comportements destructeurs. Et qui à un moment, il y a peut-être que l'amour d'un parent pour s'en occuper, pour vouloir le guérir. Et si l'enfant est contre ses parents, refuse l'aide de ses parents, souvent, vous le savez, dans la société, c'est souvent si une fois qu'on a rejeté sa famille, souvent il ne reste pas une grande aide. Souvent, c'est la famille, c'est ceux qui sont les prêts à aider le plus longtemps, à aider en dernier, à aider de manière répétée malgré les choix. Et Dieu ici, il a le cœur brisé. Il dit, c'est ce qui cause ta ruine, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. Au chapitre 12, on nous parle de Jacob. Jacob était devenu Israël. L'idée, c'était que Jacob était quelqu'un de rusé, de malin, qui arrivait à s'en sortir par ses propres artifices. Si vous voulez, on va pas s'attarder sur son histoire. Mais à un moment, il a lutté avec Dieu. Et le texte dans Osée nous apprend qu'il était, Dieu l'a soumis et il a pleuré Dieu, il a imploré Dieu de le bénir, de lui donner quelque chose. Et Dieu lui donne ce nouveau nom d'Israël. C'est de là que vient le nom Israël. Et l'idée derrière le nom, c'est que il ne devait être plus autonome, quelqu'un qui faisait tout par ses propres forces, mais quelqu'un qui était dirigé par Dieu. Et la tragédie, c'est que petit à petit, le peuple est redevenu Jacob, en quelque sorte. Ils en sont revenus à leurs artifices. Ils ont rejeté d'être dirigés par Dieu. Ils ont demandé des juges, puis ils ont demandé des rois pour pouvoir faire tout seul, pour être comme les peuples alentours. Et dans toutes ces histoires, avant leur destruction d'Israël au nord et de Juda au sud, on voit qu'ils vont faire comme Jacob. Ils vont essayer de trouver des moyens pour s'en sortir sans Dieu. Viens, on va faire une alliance avec tel pays, on va essayer de payer l'Égypte, on va payer peut-être la Syrie, on va trouver des mercenaires, on va payer des impôts, on va essayer par nos propres forces de faire quelque chose. Et Dieu, là, il dit, où est ton roi, celui qui, où sont tes propres forces, où est ce roi qui devait t'aider, qui devait être ta solution? Vas-y qu'il fasse quelque chose là, il est impuissant. T'es juge. Verset 12. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Ils vont être jugés et ça va venir de manière soudaine et inattendue. Un peu comme les douleurs de l'enfantement. Et ici, le verset 14, que vous connaissez peut-être ou que vous reconnaissez peut-être, parce que Paul le cite, « Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. » Dieu dit qu'ils vont être, ils vont mourir, mais Dieu, lui, peut sauver même de la mort. Il est capable de racheter et de restaurer même après tout ça, même après ces morts, même après ces refus, même après ces choses qui vont leur arriver. Dieu est plus grand que tout ça. Ce passage-là qu'on vient de lire est cité dans 1 Corinthiens 15:55, si vous voulez comparer. Encore une fois, l'idée que les apôtres, que les textes dans le Nouveau Testament, ils connaissaient bien souvent, presque par cœur, tous les textes de l'Ancien Testament, même ceux que nous on considère comme obscurs. Verset 15. Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Et donc il leur dit, ça va maintenant, vous avez l'impression que vous êtes dans la prospérité, mais ça va pas durer. Et le vent d'Est, le vent de l'Éternel, qui va se lever, ça va être la Syrie qui va venir de l'Est et le jugement va venir par la Syrie pour ce peuple. Verset 1 du chapitre 14. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Si on a des horreurs décrites, Pierre en a parlé, les Assyriens, je vous passe les détails. Le verset 1 là est difficile. Si vous avez eu des enfants, vous imaginez l'horreur de penser à une situation où des hordes de gens viendraient attaquer Nice avec ce genre d'intention. On a du mal dans notre monde moderne à comprendre parfois ces horreurs. Et encore une fois, on peut lire ces textes et dire, c'est l'horreur du passé, mais c'est l'horreur du péché, c'est l'horreur du cœur humain. Et souvent, on est là dans notre civilisation, on a nos constructions sociales qui nous contraignent d'une certaine manière à certains comportements et qui limitent nos horreurs, en fait. Mais aujourd'hui même, de par le monde, dans bien des pays, il y a des horreurs similaires qui ont lieu. Et ce sont des péchés et des choses qui sont la réalité de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains sans Dieu. Si vous pensez être meilleur que les Assyriens ou que les Israélites ou les gens qui font des horreurs dont vous entendez parler à la télé, ne vous leurrez pas. Dans votre cœur, ce genre de choses se cachent, sont possibles. Donnez les bonnes circonstances. Il y a un film qui sort sur des expérimentations qui ont été faites à Stanford dans les années 50 sur des tortures où ils prenaient des gens. Et il leur faisait donner des impulsions électriques de plus en plus fortes à des gens. Et il disait aux gens, là, vous donnez, c'est juste un petit chatouillis. Et puis petit à petit, ça montait. Et puis au final, c'était des doses qui auraient amené la mort. Et les gens ne voyaient pas directement les gens à qui ils donnent l'impulsion électrique. Et simplement en leur demandant, s'il vous plaît, donnez l'impulsion suivante. Si vous faites le prochain, s'il vous plaît. Et les gens, petit à petit, ils augmentent la dose jusqu'à ce qu'ils fassent l'inconcevable. Et cette expérience est révélatrice d'une certaine manière, que donner les bonnes circonstances, les mauvaises circonstances, le cœur humain est horrible. Et la fin du chapitre 14 est un peu de l'air frais, du calme après toutes ces choses. Verset 2. Israël, revient à l'Éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il va même jusqu'à leur donner la prière à faire. Il leur donne même les mots à dire. Il leur dit, vous êtes dans cet état, vous allez vous autodétruire, mais revenez à moi. Il plaide encore avec eux. C'est l'amour d'un père qui aime son enfant, qui est prêt à pardonner. Là aussi, on peut faire le parallèle avec le fils prodigue. On voit dans cette histoire d'Israël, dans Osée, l'émotion de Dieu qui aime tant. Il suffit qu'on reconnaisse, qu'on soit humble devant Dieu, qu'on reconnaisse devant Dieu le vrai état de notre cœur, notre péché, notre besoin de lui, notre dépendance sur lui. De lui dire, je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Verset 5, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère car ma colère s'est détournée d'eux. Dieu aime parce qu'il est Dieu, parce qu'il l'a décidé, parce que c'est sa nature. C'est pas parce qu'Israël a mérité quelque chose, c'est parce que lui veut aimer. Quand on lit ces textes, on a parfois l'impression, dans la manière dont ils sont écrits, que c'est des pauvres Israélites qui sont là et Dieu leur tombe dessus avec des Assyriens, avec des choses horribles. Et c'est une mauvaise manière de comprendre le texte parce qu'on remet la responsabilité sur le dos de Dieu. On dit mais Dieu, t'es quand même, c'est sévère. Je veux dire, d'accord, mais et la réalité est plutôt celle, si on veut, encore une fois, du papa avec un enfant. Les conséquences, les choses qui leur arrivent sont la conséquence de leur péché et de leur rejet de Dieu. C'est un peu comme avec un enfant. Si vous avez un petit enfant et que vous lui dites, ne va pas jouer dans la rue. Il va jouer une fois, il va jouer deux fois. Là, vous le punissez. J'en sais rien, vous lui mettez une fessée, vous le mettez dans sa chambre, vous lui dites « Ah, tu peux plus sortir. » Il continue. Ça, c'est Dieu avec Israël. Il les punit, il leur dit « Ça, ça va t'amener la mort. Je vais te donner une punition pour que tu l'enregistres, pour que tu comprennes que ça va causer ta mort. » Et eux, ils comprennent pas. Ils repartent jouer dans la rue et un jour, ils finissent par se faire avoir par une voiture. Est-ce que c'est la faute de Dieu ? Est-ce que les punitions du papa étaient la cause? Non, c'est l'amour. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Israël, ils finissent par être et aller là où leurs péchés les ont amenés. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous dit... Paul nous dit dans le Nouveau Testament, ces exemples sont là pour notre instruction, pour qu'on apprenne, pour qu'on ne commette pas les mêmes problèmes, pour qu'on ne tombe pas dans l'idolâtrie, les conséquences du péché, tout ce qui s'ensuit. L'homme, le monde est en train de subir et de voir les conséquences de ces choses et de suivre la voie qui est de rejeter Dieu et petit à petit, il y a des conséquences qui arrivent du fait de leur péché. Et nous, on, individuellement, on peut faire un choix. Et Dieu nous appelle à faire un choix pour lui. Et on doit faire le bon choix. Verset 6, « Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. Il va leur redonner la vie, s'ils reviennent à lui, la croissance, la beauté, la force, la joie, l'abondance. Et il veut en faire un arbre qui bénit les autres nations aussi. C'était son intention au départ. Il voulait du fruit, pas que pour eux, mais aussi pour les nations qui allaient être influencées par eux. Verset 9, « Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Je lui répondrai, je veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Une fois vraiment revenu à Dieu, guéri de son infidélité, Éphraïm ne va plus perdre de temps avec ses idoles. Il va pouvoir se délecter de Dieu. Et verset 10, qui est sage, qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Qu'on comprenne ces choses si on a envie d'être sage, qu'on connaisse ces choses si on a envie d'être intelligent. Dieu invite l'homme à la repentance, l'invite à revenir à lui, et il est dangereux de refuser l'invitation. Au chapitre 10, le verset 2, il est dit « Leur cœur est partagé, ils vont maintenant supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs autels, détruira leurs statues. » On ne doit pas avoir le cœur partagé. Israël avait un cœur partagé. Il louait un petit peu Dieu, il louait un petit peu les autres dieux. Si ça allait mal, il priait peut-être un Dieu plus. Ils étaient dans l'abondance, ça allait. Pour nous, il nous faut choisir aussi. Est-ce que j'ai des idoles dans ma vie? Il me faut choisir Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de venir à Dieu dans la journée? Est-ce qu'il y a des choses que je préfère à Dieu? Est-ce que je préfère regarder la télé, lire autre chose, être amusé? Est-ce que je préfère manger? Est-ce que je préfère mon confort? Est-ce que je préfère... Il y a plein de choses. On doit choisir Dieu. On doit choisir d'aller à Dieu. David avait une prière dans le psaume 86, 11. Dans cette version, il est dit « Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans la vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » L'idée ici de disposer son cœur, c'est de donner un cœur unifié, un cœur qui n'est pas divisé, un cœur qui est tout entier au Seigneur. Et dans Ézéchiel 11, 19, il y a une prophétie de Dieu qui dit « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur cœur de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Quand il dit « je leur donnerai un seul cœur », c'est cette idée d'un cœur qui est pas divisé. On doit venir à Dieu. On doit méditer ces choses et on doit chercher les idoles dans nos vies et les enlever et revenir à Dieu. Lui dire nos péchés, lui dire qu'on a tort, lui demander pardon et revenir à lui. Et quand on fait ça, on est assuré de l'amour et de la bonté et de l'acceptation de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole, merci pour Osée. Seigneur, on veut prendre à cœur ces choses. Moi, tout particulièrement, Seigneur, en lisant ces paroles, je suis repris sur bien des aspects de ma vie. Même si je vis pour toi, même si je t'aime, Seigneur, il y a encore des choses, il y a encore des domaines dans ma vie où tu dois venir et tu dois enlever les ronces, Seigneur, tu dois nettoyer, Seigneur, tu dois rendre propre mon cœur, Seigneur. Dans Osée, on a lu « Semez pour vous la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. » C'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Seigneur, aide-moi à défricher dans mon cœur, Seigneur, à me réouvrir à ta parole, à ouvrir mon cœur à ce que tu as à me dire. Seigneur, aide-moi, aide-nous à revenir à toi, individuellement, Seigneur, en tant qu'Église. En tant qu'Église aussi, avec un grand E, Seigneur. S'il y a des choses que tu veux enlever, Seigneur, s'il y a des péchés, Seigneur, pardonne-nous. Et fais-nous revenir à toi, fais-nous grandir en toi, réinsuffle ta vie en nous, à nouveau, Seigneur. Tu nous dis de prier, d'être continuellement rempli de ton esprit, Seigneur. On veut être à nouveau rempli de ton esprit, Seigneur. Merci pour ces paroles, Seigneur. Merci pour ta parole. Sois glorifié ce matin, sois élevé parmi nous. On te remet notre temps de communion fraternelle, Seigneur. Sois parmi nous. Que ton amour règne ici, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.